Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième épisode de la série Évaluation. La dernière fois, nous avons discuté des résultats d'apprentissage et des critères de réussite. Pour le deuxième épisode, nous allons une étape plus loin. Une fois qu'on a établi les résultats d'apprentissage et les critères de réussite, on devrait commencer à se poser la question « Comment savoir si l'élève a atteint la cible? » Alors, si je ne me trompe pas, depuis quelques années, et vous pouvez me confirmer ça, à chaque fois qu'on parle des preuves d'apprentissage, on a toujours le mot « triangulation » au bout de la langue. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un terme que vous avez déjà entendu parler?
Absolument. Et je dirais que c'est vrai. Le lien entre les preuves d'apprentissage et la triangulation est plutôt solide.
Je pense que c'est aussi quelque chose qui a changé beaucoup dans les dernières années. C'est l'approche à l'évaluation, que c'est quelque chose de continu et que c'est dans le but d'améliorer les apprentissages.
Absolument. Alors, donc, nous allons centrer notre conversation sur la pratique, sur les pratiques de triangulation. Alors, mesdames, commençons par une question un peu plus légère. Je me souviens qu'il y a quelques années, durant une des rencontres à l'école, j'ai entendu le terme triangulation, j'ai hoché ma tête, je faisais semblant que je comprenais c'était quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Mais après ça, c'est par après que j'ai googlé le terme. Alors, même si c'est une question de vraiment de base, je pense que ça mériterait quelques moments pour la répondre. C'est quoi la triangulation?
Bien, dans un grand mot dans le petit, triangulation, ça sous-entend qu'il y a un triangle, il y a trois sommets, et les trois sommets sont les trois types de preuves d'apprentissage qui devraient être collectées pour avoir une évaluation qui est valable.
Et alors, les trois points du triangle, c'est les productions, les observations, ça veut dire ce qu'on voit lorsque l'élève est en train de travailler, de parler, de discuter, de collaborer, et les conversations, où on a vraiment une intention lorsqu'on s'assoit puis on pose des questions à l'élève.
Alors, c'est quand même très chargé. On vient juste de mentionner trois grosses composantes, puis évidemment, on va rentrer un petit peu plus en détail.
Production, observation, conversation.
Production, observation, conversation.
Absolument.
Alors, n'oubliez pas toujours ces trois mots-là à la prochaine fois lorsque on vous parle de la triangulation.
Puis, moi, j'aimerais juste faire le point que dans le passé, on était vraiment axé sur les productions et c'est vraiment tout ce qui était évalué. Et c'est ça qu'on se fiait beaucoup sur un test, sur un texte écrit, sur un projet, sur un diaporama?
Mm-hmm. Oui.
Diorama, c'est ça le mot que je cherchais.
Diorama.
Un projet.
C'est quoi un diorama?
Diorama, c'est... Oh, vous me ramenez en quatrième année. Diorama, c'est quand tu prends une boîte à souliers.
Oh,
et puis, à l'intérieur, tu démontres la vie marine. Oui. Oui, une scène. Ça pourrait être le lieu où votre... La lecture que vous venez de faire a eu lieu. Ça pourrait être l'habitat d'un animal. Ça, c'est
oui, okay.
Diorama.
Oui. Oui.
Qu'on entend aussi beaucoup le mot maquette.
Oui, une maquette.
On l'entend.
Mais maintenant, on sait que ce n'est pas juste la production qui va nous démontrer l'apprentissage de l'élève. Et en effet, il y a beaucoup d'élèves pour qui la production est la partie la plus difficile. Parce que si on évalue tout le monde de la même façon, il y en a qui risquent d'échouer.
Oui. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis je te dirais même que quand je regarde un examen ou comme une production... J'ai toujours des questions dans le sens de « Ah, je me demande à quoi il pensait quand il a écrit ça. Pourquoi il a écrit ça comme ça? C'est-tu parce qu'il a confondu les lettres? Est-ce que c'est parce qu'il a confondu les concepts? Est-ce qu'il a bien compris le concept mais il a juste donné une terminologie différente? »
Ou est-ce qu'il a mal compris la question?
Qu'il a mal compris la question? Ouais. Alors, tu te dis « si j'avais pu être dans sa tête... » Peut-être que la conclusion de mon évaluation serait différente.
Oui, mais vu qu'on ne peut pas être dans sa tête...
Selon la loi, ce n'est pas permis.
Ah, OK. Bon.
J'ai vérifié.
Mais en fait, c'est, non seulement c'est pas permis, c'est aussi de trouver une façon comment le faire qui devient un peu difficile. Mais j'aime beaucoup comment la mise en situation que tu viens de dire, parce que si nous autres, on peut pas être dans sa tête, mais comment est-ce qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qu'il pensait? Puis c'est vraiment... Puis des fois, c'est pas toujours des choses qu'on peut observer. Puis c'est là que la discussion, c'est quoi le mot, là?
Conversation.
Que la conversation. J'ai déjà oublié les trois mots. La conversation vient jouer un rôle
très... Production. C'est quoi, là?
Observation.
Et conversation.
Oui!
Voilà! Donc,
wow!
Co. Ça, c'est les trois premières lettres de chaque.
Oui. Non, les deux... Ah, OK, les trois... OK, j'ai compris. J'ai tout compris.
Ça, c'est des trucs mnémoniques propres à moi, ça.
alors, ça, c'est une très belle mise en situation, un très bel exemple de qu'est-ce que ça veut dire « conversation ». Alors, est-ce que... Pensez-vous qu'on peut... Alors, je pense que c'est clair que les productions, on s'entend là-dessus. On est pas mal clair sur ce genre de preuve d'apprentissage. Alors, si on a parlé de conversation, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça veut dire observation d'abord? C'est vraiment observer? C'est quoi? Comment est-ce qu'on le fait?
C'est vraiment tout ce qu'on voit chez l'élève lorsqu'il est en action.
Je te dirais que les enseignants qui travaillent plus étroitement avec les plus jeunes élèves deviennent des professionnels de l'observation.
Absolument.
Parce que là, tu prends en note tout ce qui est anecdotique dans la journée. L'enfant fait ça, puis tu enlèves toutes les subjectivités dans ça. Tu écris objectivement ce que l'enfant est en train de faire. Ce qui fait que quand tu relis tes notes, tu es capable de faire le lien, tu es capable de voir, OK, s'il est en train de faire ça, on peut sous-entendre que c'est parce qu'il a compris tel concept ou quoi que ce soit. Surtout quand on parle, je sais pas moi, de la manipulation en mathématiques. On vient de moins en moins habile avec l'observation, je pense, au fur et à mesure que l'élève grandit. Parce qu'on a moins, je dirais peut-être moins le temps où ça devient moins intentionnel que d'observer l'élève dans ce qu'il est en train de produire, surtout si on lui offre majoritairement des tâches qui sont papier-crayon.
Mm-hmm, absolument. Parce que là, on retombe un petit peu dans la production, dans la partie production. Exact. Jen?
Je voulais dire que, pour finir ma pensée, parce que j'avais complètement oublié ce que je voulais dire, c'était que les observations devraient être en lien avec les critères de réussite et le résultat d'apprentissage qu'on vise et les habitudes de travail et les habiletés. Et aussi que c'est vrai qu'avec les plus vieux, parfois on a tendance à les corriger au lieu de leur poser des questions. Alors par exemple, j'étais dans une classe il y a quelques mois où les élèves travaillaient sur une résolution de problème en mathématiques, puis au lieu de demander « Oh, qu'est-ce que tu as fait là? Comment est-ce que tu t'es rendu là? » Le prof disait « Oh, mais non, c'est pas 10, comme regarde ce que, tu sais. » Alors au lieu de poser des questions puis voir où est la pensée de l'élève, si on les corrige, on perd beaucoup de richesse dans l'observation.
On dirait qu'on on sort un petit peu de qu'est-ce qui est objectif, donc ce qu'on peut vraiment voir à partir d'une production, à quelque chose qui est quand même subjectif, qui représente l'élève, mais qui vient apporter beaucoup de richesse à son apprentissage, à ses preuves d'apprentissage et à son apprentissage. Alors, je pense qu'en parlant de ça tantôt, on a comme répondu un petit peu mes deux prochaines questions, mais je vais les poser peut-être une à la fois. Comment, alors, Mylène, toi, tu avais mentionné un petit peu tantôt que pour les plus jeunes, on observe beaucoup, on écrit, elle n'a pas dit ça, mais si vous reculez un petit peu dans notre balado, vous allez entendre qu'en effet, elle avait dit ça, que pour les plus jeunes, les enseignants, on observe beaucoup, on écrit exactement, anecdotiquement, qu'est-ce que l'élève fait. Mais ma question, c'est comment est-ce qu'on fait la triangulation?
Alors, mais je dirais qu'une autre chose qui a beaucoup changé depuis les dernières années, c'est que ce n'est pas juste l'enseignant qui fait la triangulation, c'est aussi l'élève.
Ça, j'ai tellement d'amour dans mes yeux en ce moment. Oui. Je suis tellement d'accord avec toi.
Elle-même.
Parce que l'évaluation, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'adulte. L'enfant doit aussi porter un jugement critique sur la tâche qu'il est en train de produire. Puis si on ne leur donne pas la possibilité de le faire, ben l'enfant est comme... L'enfant évolue de manière parallèle à son évaluation sans vraiment que les deux aspects se croisent.
Oui. Puis moi, j'aime beaucoup ce mot-là, puis je vais l'utiliser. C'est que une fois que l'élève a un mot à dire sur son apprentissage, il ou elle devient redevable, puis il ou elle devient responsable. Il se sent qu'il y a un mot, il y a un rôle à jouer dans son apprentissage. Ce mot-là, j'adore ce mot-là, puis c'est possible que je vais le rementionner souvent dans nos balados.
Et c'est ça que ça change lorsqu'on établit des résultats d'apprentissage et des critères très, très précis, parce que l'élève est capable d'être actif dans son évaluation. Il est capable de s'auto-évaluer et de voir si ça, c'est la cible, je l'ai atteint ou je suis en voie de l'atteindre. Alors, je vais aller chercher le iPad, je vais me filmer, je vais m'enregistrer, je vais prendre une photo de ce que je viens de faire et je vais expliquer à mon enseignant pourquoi c'est une preuve d'apprentissage.
Absolument. Wow, c'est... On est en train de faire des liens entre l'épisode précédent et après ça, on est déjà en train de faire le pont entre les autres épisodes qu'on va...
Oui, exactement. Parce que tout est interrelié. Ce sont pas des étapes de l'évaluation, ce sont des composantes.
Absolument.
Alors, tout se chevauche.
Oui.
Mais là, on parle de mettre l'enfant au centre et tout ça, puis je suis d'accord. On parle, et puis c'est une belle théorie dans tout ça. Mais là, je peux déjà entendre les gens qui disent « OK, on fait ça comment? » Sachez qu'il y a de multiples applications, que ça soit sur l'iPad ou que ça soit des
appareils web,
qui nous permettent de faire de telles collectes.
Et c'est tellement facile maintenant.
Maintenant, on
a déjà vu des élèves au préscolaire qui étaient capables d'aller chercher le iPad, de prendre une photo et de le mettre dans leur portfolio.
Absolument. Il faut penser aussi que derrière ça, il y a eu des apprentissages très explicites de comment prendre l'iPad, comment utiliser l'iPad, où est-ce que je vais toucher pour aller chercher l'application, comment je le fais. L'enfant n'est pas né en étant capable de faire des collectes de preuves d'apprentissage en utilisant des applications sur un appareil mobile. Là. Ça a été enseigné de manière explicite, mais les enfants sont ô combien capables de le faire, puis sont tellement fiers après ça de faire le pont entre l'école et la maison pour nous, parce qu'ils arrivent à la maison puis « Maman, papa, est-ce que tu as vu ce que j'ai fait aujourd'hui? »
Et ça, ça change tout. Parce que tout ce qu'on demande à l'élève de faire, puis de le mettre dans son portfolio électronique, où il y a maman, papa, peut-être grand-maman, quelqu'un d'autre qui a accès, il y a maintenant un auditoire pour ses travaux. C'est et ça change tout.
Ça change comme tout. L'engagement, la motivation.
Comme notre balado, absolument. Parce que tout le monde peut avoir accès n'importe où. Puis ça devient un outil qui est vraiment puissant.
Et une preuve de ton apprentissage.
Absolument.
Pour ta maman.
Je la salue d'ailleurs.
Allô, maman.
J'aimerais revenir à une question qu'on n'a pas posée explicitement, qui est quand faire la triangulation? Parce que moi, j'aimerais répondre à cette question. C'est pour ça qu'il fallait que je la pose.
OK, parfait. Alors, on va poser ça. Quand faire la triangulation? Parce que si on regarde, d'après mes lectures puis d'après mes recherches, on voit que ça dit que la triangulation, on devrait le faire tout au long de l'apprentissage.
Okay, alors, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Je vous donne la parole.
Jen, t'en penses quoi?
Moi, j'aime beaucoup le livre de Anne Davies, qui n'est pas parentée, l'évaluation en cours d'apprentissage.
Exactement.
Parce qu'on le fait tout le temps, parce que le but de l'évaluation, c'est pas de poser un jugement. Mm-hmm. Le but de l'évaluation, c'est d'améliorer, c'est d'amener l'élève plus loin. Alors, je dis souvent aux enseignants, on est des enseignants, on n'est pas des évaluateurs. On n'est pas là pour accorder une note, on est là pour enseigner pour que nos élèves apprennent. Alors, lorsqu'on fait de la triangulation en tout temps, et c'est continu, c'est ça qui va nous permettre d'ajuster notre enseignement ou de faire des petites interventions avec les élèves pour qu'ils atteignent la cible.
Mm-hmm. Puis je pense que ça revient aussi un petit peu lorsqu'on dit qu'il faudrait faire la triangulation tout au long de l'apprentissage, c'est aussi, il y a une composante qui vient jouer là-dedans, c'est comment est-ce qu'on s'organise. Si tout est éparpillé partout, il y a des feuilles ici, il y a des feuilles là, puis un portfolio électronique, puis tout ça, à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de je sais pas quelle est la période, ça devient très difficile à mettre tout ça ensemble. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? Je sais que chaque enseignant a sa façon de faire, mais vous, là, j'ai déjà entendu le mot portfolio électronique. Est-ce que c'est vraiment une place qui est centrale où est-ce qu'on peut tout mettre ou est-ce qu'on peut le faire un petit peu autrement? Je vous pose la question.
Mais je te dirais que moi, le portfolio numérique a changé ma vie. Mais avant de faire ça, j'étais en maternelle de jardin et alors c'était beaucoup le post-it. J'avais les fiches beige dans mon cahier et j'avais une fiche par élève. Alors tout le long de la journée, j'écrivais sur mes post-it mes observations que je collais ici et là dans la classe. Et à la fin de journée, je pouvais prendre un temps assez considérable d'aller chercher les post-it et d'aller les déposer à l'intérieur de mes fiches de qu'est-ce qui était en lien avec chaque enfant. Et après ça, je pouvais m'asseoir puis faire des constats de ce que j'avais observé.
Mm-hmm, absolument.
Mais là, c'est un temps fou. C'est beaucoup d'énergie, à mon avis, gaspillée parce que c'est du temps que je pourrais être à faire autre chose, préparer des choses pour les élèves. Alors là, j'ai découvert avec, entre autres, l'assistance de Jen dans la salle de classe, comment mettre en place le portfolio numérique dans ma salle de classe. Et là, j'ai passé d'apporter des valises à l'école pour apporter mes preuves d'apprentissage à la maison, pour écrire les bulletins, entre autres, me questionner, analyser tout, à apporter le iPad à la maison. Alors déjà, mes muscles de dos,
te remercie.
Mais aussi dans tout ce qui est, parce que là j'avais des piles à la maison, tout ce qui était littératie, tout ce qui était numératie, alors quand c'était en temps de faire des rédactions de bulletins, c'était comme si on avait le malheur de bouger mes piles, j'étais complètement
alors déclencée. Ton chum nous remercie aussi.
Ah oui, absolument. Absolument, parce que c'était, j'avais un fort, j'avais toute la table de cuisine puis j'avais des piles de et ça l'a passé à sur le iPad. Tout était classé, en fonction des élèves et j'avais seulement besoin d'aller... Et la recherche se fait de manière très, 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 très simple. Alors ça a changé ma vie et parce que je suis quelqu'un qui est quand même organisé.
Absolument.
Vous êtes... Toi? T'as le droit de pas être d'accord. Mais moi, je me considère quand même quelqu'un qui est plus ou moins organisé, qui quand même en réussit à ce niveau-là. Mais l'idée de savoir que rien se perd, juste l'idée d'envoyer quelque chose à la maison, et c'est pas grave si ça revient pas parce que j'ai déjà pris une photo pour le déposer dans le portfolio. Alors, tous ces évaluations... ces évaluations, c'est pas vraiment des évaluations, mais toutes les preuves que je voulais garder, que je trouvais vraiment comme intéressante, eh bien, ça disparaît pas parce que ça reste dans mon iPad. Ça, là, ouf!
Est-ce que je peux juste faire un commentaire rapidement? Il me semble que ce portfolio électronique, comme n'importe quel outil, comme par exemple un site web, un n'importe quoi, notre balado, ça demande quand même un investissement de temps qui est quand même important au début. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais je pense que ça, cet investissement-là, ça vaut le retour sur ton argent est tellement important que ça vaut la peine de vraiment passer un peu de temps là-dessus.
J'aurais été d'accord il y a 2 ans, lorsqu'on proposait aux profs d'utiliser un outil qui était un peu moins convivial.
Qui a beaucoup évolué.
mais maintenant, il y a le portfolio l'environnement d'apprentissage virtuel qui est propre à nos conseils ici en Ontario, je crois. Mais il y a aussi plein d'outils qui sont gratuits pour le iPad comme Sisa ou Sesame Snap ou plein d'autres. Et vraiment, je suis tombée en amour avec Sisa quand j'ai travaillé avec une enseignante qui, tu sais, elle se disait pas techno du tout, mais elle était vendue puis rapidement parce que c'est tellement facile.
En 5 minutes, la classe va être mise en place.
Oui, parfait.
Et en un autre 5 minutes, on peut faire l'enseignement explicite. Et j'ai vu des enseignants qui, à l'intérieur, tu sais, on en a parlé le matin. Mm-hmm. Et l'après-midi, ça a été mis en place en salle de classe.
Alors, bref, juste pour dire que ça peut exister sous toutes formes et ça n'a pas besoin d'être compliqué.
Pas du tout.
Non, puis je te dirais que le temps dont tu parlais, là, c'est un investissement de temps. Je te dirais que non, parce que la tâche que je faisais seule avant de catégoriser mes post-it. Maintenant, c'est une tâche que j'ai partagée avec les élèves. Mm-hmm. Parce que là, on a parlé, c'est quoi une preuve d'apprentissage valable? Mm-hmm. Qu'est-ce qui mérite d'être dans le portfolio? Et après ça, ben, plutôt que d'être seul, tous les petits loups sont en train de juger leur tâche et de faire ça, je serais vraiment fière, ça j'ai vraiment appris, je veux le partager. Ben moi, pendant ça, je peux faire autre chose.
Oui, absolument.
Et ça n'inclut pas boire mon café tranquille dans mon bureau. Ça, j'en ai jamais le temps.
On n'a jamais le temps de faire ça. Puis je pense que Mylène, toi, l'exemple que tu viens de donner, évidemment, comme toi, t'as enseigné au préscolaire, mais que j'entends beaucoup d'écho parce que moi, qui a toujours enseigné au primaire, c'est exactement la même situation. Fait que je dis que tout ce qu'on vient de discuter, c'est pas mal applicable
jusqu'à la huitième.
Oui, oui. À différents niveaux.
Ah, bref, oui. Absolument. Je te dirais qu'en première année, parce que j'ai aussi fait d'autres choses que la maternelle jardin, mais maternelle jardin, c'est mon cœur y est. Je te dirais que les élèves, en plus d'être très, très engagés, sont proactifs dans la collecte de leurs preuves de données. Et ce que j'ai beaucoup aimé faire avec, ben, je les appelle mes plus vieux, là, mais
bon. qui avaient 6 ans.
c'est que j'ai beaucoup aimé, quand les élèves ont atteint une certaine maturité, c'est d'aller faire l'analyse de ces preuves-là.
Mm-hmm.
De discuter de qu'est-ce qui a été appris avec. Ici, là, je vois ce que tu as fait. Parle-moi de ce que tu as fait.
Oui.
Et là, c'est les concepts. Il y a certains résultats d'apprentissage qui reviennent dans des choses qu'on avait déjà discutées, puis que là, ça revient, mais de leur bouche. Voici, madame, ce que j'ai appris. Ça, là, c'est...
Lorsque tu fais cette conversation-là avec cet élève pour aller plus loin dans l'analyse de leur propre apprentissage, est-ce que tu enregistres ça ou...
Ben, je te dirais qu'avec CISA, c'est super facile parce que avec l'option audio, micro, je peux enregistrer mes conversations, mes entrevues avec les élèves. Parfait. Alors, il y a de ça pas si longtemps, dans le temps où on n'avait pas d'iPad dans la salle de classe, moi, j'utilisais mon téléphone personnel pour faire ça. D'ailleurs, anecdote qui n'est pas drôle, assurez-vous d'être sur le réseau Wi-Fi de votre école, s'il y est, parce que la première fois, ça m'a coûté un bras en données. J'ai téléchargé. En tout cas, ça c'est mon erreur, puis je vis très bien avec ça. Mais l'idée que je peux enregistrer les conversations avec les élèves... ça, c'est des choses qu'avant, c'était
pas possible. Oui, je veux pas me faire ravir, mais dans ma première salle de classe, j'avais une machine à cassette.
Wow!
Oui.
Attends, cassette vidéo, cassette...
Non, même pas.
Une cassette audio, là, avec le fil noir?
C'est ça.
Comme une cassette bêta, non?
Non, mais ça prenait du temps. Et lorsqu'on prenait des photos avec la caméra digitale, il fallait mettre le fil puis les télécharger dans le desktop.
Oh,
alors,
fou.
Ouais. On est vraiment choyés.
On a parlé de ça, est-ce qu'il faut enregistrer. Je pense qu'on a quand même bien couvert le comment de la triangulation.
Ce que j'aime beaucoup avec la triangulation, c'est que ça nous permet aussi de faire de la différenciation dans nos pratiques d'évaluation. J'ai en tête un jeune homme avec qui j'ai travaillé en première année que écrire, c'était difficile.
C'est difficile, oui.
Mais ça ne change pas que l'organisation de ses idées, ça, c'était présent.
Ouais.
Alors, quand je m'assoyais avec lui, il faisait des dessins pour représenter les schémas dans son histoire et tout, et il pouvait me raconter l'histoire. Et de manière, là... phénoménal, mais quand c'est le temps de l'écrire, parce que là, ça devient une surcharge cognitive dans tout ce qui est l'exercice de la motricité fine qu'il n'avait pas à ce moment-là, mais j'étais capable de vraiment porter un jugement jugement qui était...
Juste.
Merci, c'est le mot juste que je cherchais. Par rapport à ce qu'il était capable d'offrir comme performance. Et si j'avais juste évalué ses écrits... Eh bien, c'est un enfant que j'aurais dit, désolé, c'est pas acquis.
Oui,
parce qu'il faut savoir aussi qu'est-ce que tu es en train d'évaluer. Et avec les critères de réussite bien détaillés, vous savez exactement ce que vous êtes en train d'évaluer. Et même si c'est une tâche d'écriture, comme tu viens de mentionner, pas tout ce qui est écriture
doit être écrit.
Et calligraphie,
ouais,
c'est non. ça. Alors, il y a l'organisation des idées. Et puis, dans d'autres matières, c'est beaucoup plus clair aussi que ce n'est pas l'écriture qu'on est en train d'évaluer.
Mm-hmm.
Alors, si l'élève a bien compris un concept en sciences, en études sociales, ben c'est à l'oral ou en faisant une autre production
mm-hmm.
qu'on va le voir.
En entrevue, j'aime beaucoup l'entrevue, de poser des questions. Et ça me permet aussi de travailler ma relation éducative avec l'enfant, sachant que c'est un moment magique. Mais pas vraiment magique, là.
Mais c'est magique.
C'est spécial que et... c'est toi et moi seulement.
Ben, j'allais
tous
dire...
les autres sont en sourdine à l'arrière-plan.
Ben, j'allais dire, c'est spécial pour toi et pour l'élève. Ouais. Ah, il adore ça, passer du temps.
Et là, je peux tout enregistrer et garder ça dans mes filières de... OK, lui, cet enfant-là n'a pas produit, n'a pas écrit sa rédaction, mais j'ai été capable de sortir de cet enfant-là les mêmes concepts à l'oral qu'à l'écrit.
Et on parle souvent du questionnement, puis de planifier son questionnement,
oui.
qui est très, très important. Mais l'exemple que tu viens de donner, c'est une question très, très simple, mais qui peut donner beaucoup d'informations. Tu avais dit à l'élève, parle-moi de ce que tu as fait, ou écrit, ou dessiné, ou construit.
Mm-hmm.
Ça peut être aussi simple que ça. Puis j'ai même demandé à des élèves, parle-moi de toi. Puis c'est Absolument. Incroyable ce qui ressort quand tu dis, parle-moi de Howard.
Ouais.
Ah, puis c'est spécial. Je veux dire, tu me poses cette question-là, puis je me dis, hey, t'as vraiment envie de savoir.
Oui, parce que tu m'écoutes.
Ouais, ouais. Mais je trouve que, c'est puis juste pour revenir un petit peu, pour faire le pont entre ce que tu as dit, Jen, à propos des critères de réussite, si l'élève présente une tâche, puis si on lui présente les critères de réussite, ça permet à l'élève de aussi faire une réflexion, de aussi penser, est-ce que... qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce qu'on a demandé de moi, que d'ailleurs, on a toutes décidé ensemble, est-ce que les deux sont pareils? Est-ce mm-hmm. que les deux se comparent, disons? Mm-hmm. Alors, je trouve que pour la réflexion, pas juste nous, notre réflexion professionnelle, mais réflexion de l'élève, puis à développer leur pensée critique aussi, je trouve mm-hmm. que ça vient jouer beaucoup là-dedans.
Oui.
Ouais.
Et on va parler dans un épisode ultérieur de l'évaluation en tant qu'apprentissage.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment de ça que tu parles en ce moment.
OK.
Et je veux revenir sur ce que tu viens de dire, par exemple, parce que quand l'enfant porte cette pensée critique-là par rapport à son travail, on est en train d'aller dans l'aspect... Parce que on parle... Quand je prends des photos puis que je les mets en ligne et je les partage, je suis en train de faire de la documentation.
Mm-hmm.
Mais quand je prends des photos, que je les partage et que je me questionne sur ce qui a été fait, ce qui a été appris et que j'analyse la preuve d'apprentissage, je suis en train de faire de la documentation pédagogique.
Mm-hmm.
Alors, quand l'enfant s'installe et que là, ensemble, on réfléchit sur les apprentissages qui ont été faits et qu'on se questionne à savoir, bon, est-ce que la cible précédente a été atteinte, quelle va être la cible suivante ou juste de discuter ce qui a été appris, bien là, on est en train de faire de la documentation pédagogique. Et ici, en Ontario, la documentation pédagogique est une politique du ministère M, maternelle, à la 12e année.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Alors, c'est pas parce que je partage des belles photos des petits loups avec maman et papa que je suis forcément en train de faire de la documentation oui. pédagogique. Il faut vraiment que je m'assoie puis que j'analyse puis que je me questionne sur ces preuves
d'apprentissage. C'est une bonne distinction.
Exactement, c'est une bonne distinction parce que, tu sais, on dirait qu'à chaque fois qu'on entend ça, c'est tellement global, mais sauf que si on rentre plutôt à l'intérieur de même ce mot-là, il y a plusieurs composants qu'on peut différencier. En parlant de composants, si on retourne un petit peu à notre discussion de triangulation, est-ce que ces trois composants ont le même poids? Est-ce que... Je pense qu'on a touché sur ça un petit peu, mais est-ce que ces trois...
Production, observation, conversation, laquelle... Est-ce qu'elles ont tous la même valeur?
Oui, exactement. Le même poids, la même valeur.
Moi, je dirais que c'est la preuve d'apprentissage qui a démontré que l'élève a acquis le concept, la compétence, l'habileté. C'est
celui qui va être le plus important.
Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on veut voir, c'est est-ce que l'apprentissage a été fait? Alors, si l'élève n'est pas capable de me montrer ça avec une production, mais dans une conversation, il est capable de me le démontrer, je me base sur ça.
Wow, OK. Mais c'est clair. Pour moi, c'est clair.
Oui, mais.
Oui, mais.
Oui, et. Je sais pas, j'ai tendance à penser... C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si j'avais à en enlever une...
Ooh.
J'aurais tendance à dire que la production, s'il n'est pas accompagné du raisonnement de l'enfant,
hein? Ça vaut rien.
Parce que la production, si je veux évaluer au niveau des compétences, si je veux évaluer connaissance et compréhension, ça a peut-être plus de pertinence.
Mm-hmm.
Mais si je veux évaluer les habiletés de la pensée, ou si je veux évaluer la mise en application, ou si je veux évaluer la communication, peut-être que la production, tout dépendant, la production, là, si c'est une vidéo, démontre-moi, mais si c'est un document écrit, écris-moi comment tu réagirais, mais pourquoi...
Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que les profs ont peur de laisser tomber les productions. Ils pensent que les parents vont vouloir voir la production. Dis-moi pas que mon élève l'a compris ou l'a pas compris. Montre-moi ce que mon enfant a fait. Et je trouve que c'est une inquiétude qui est basée sur l'historique, sur l'histoire en éducation, sur notre vécu en éducation, parce que c'est ça qu'on recevait.
C'est ça qu'on faisait avant,
ouais. Mais j'ai toujours trouvé, quand j'étais en salle de classe, que les parents me faisaient confiance. Mm-hmm. Et surtout maintenant, avec toute la documentation qu'on peut faire, ben, c'est beaucoup plus facile, pas juste leur dire « Oui, mais j'ai vu en salle de classe qu'il était capable de construire un prisme à base rectangulaire avec des connexes. Ben, je peux prendre une photo, je peux le filmer. » Alors, c'est pas juste moi qui le dis, j'ai une preuve.
Ouais. Les parents informés sont souvent des parents qui vont embarquer avec des
pratiques. Et ces outils nous permettent aussi de communiquer, de mieux communiquer avec les parents pour qu'ils voient tout ce qui se passe derrière la scène aussi. C'est pas juste ce que, tu sais, ton enfant arrive à la maison puis il a un tableau, une peinture qu'il a faite à l'école et c'est tout. On voit pas le reste de la journée. Maintenant, on le voit. Puis nous, on est capable de dire, voici la grille, voici les critères, voici nos centres de littératie, voici le pourquoi de tout ce que je fais en salle de classe. Je pense que les parents trouvent ça pas mal impressionnant.
Mm-hmm.
Wow.
Oui, puis si on parle de production, si on enlève, si on s'enlève le concept d'examen papier écrit, mm-hmm. parce que souvent, quand on parle de production, c'est ça qu'on a en tête.
Mm-hmm.
Mais que si on voit... je sais pas moi, l'utilisation d'applications de contenu pour aller créer du contenu francophone en ligne qu'on peut partager, ben là, ça reste une production, mais la valeur est beaucoup plus grande. Si on demande aux enfants, je sais pas moi, de faire plus que le papier crayon, la production a une toute autre valeur. Oui. Parce que juste dans sa façon, si on demande, je sais, là j'invente, là,
mm-hmm.
là j'invente.
Non, ça va.
On demande à des enfants d'aller expliquer un concept technologique dans un à des gens plus âgés, par exemple,
mm-hmm.
à des personnes âgées.
Ouais.
Dans sa communication, dans la production même de la tâche, t'as de l'observation, de la production, t'as de la communication, t'es en train de voir la mise en œuvre. Et ça va beaucoup plus loin mm-hmm. que le papier crayon.
Et ça va dans les deux sens aussi. Absolument. Lorsqu'on publie, on diffuse quelque chose en ligne, on peut recevoir une rétroaction, on peut avoir une conversation avec des gens de partout dans le monde. Alors, ça nous embarque aussi dans l'idée des compétences globales qui seraient pour une autre série.
Wow! Je trouve que en vous parlant, je viens juste... Il y a juste des ampoules qui viennent s'allumer dans ma tête parce qu'il y avait tellement de choses que je pensais que je comprenais que, en fait, j'ai vu ça d'une autre façon. Puis là, en vous parlant, je pense que j'ai vu... Là, je commence à voir la triangulation de notre point de vue. Puis d'ailleurs, c'est ça notre but aussi. C'est pas de vous dire quoi faire, c'est pas de vous dire exactement comme ça devrait fonctionner, mais c'est aussi d'apporter un petit peu notre opinion dans tout ça.
Pour moi, le message le plus important, c'est que l'évaluation fait partie de l'apprentissage.
Oui.
C'est pas à part, c'est pas à la fin, ça fait partie de l'apprentissage.
Puis tu vois, je pousserais la note en disant que l'évaluation à ce niveau-là, c'est important de la planifier. Parce que souvent, au niveau de la triangulation, on se dit « Ah, les observations, les communications, tout ça, ça, c'est de la belle théorie. » Mais qu'en pratique, avec l'alarme de feu, les collations, tout ce qui se passe en salle de classe, si on ne prend pas le temps de le planifier, souvent, c'est des choses qui passent dans les cracks. Alors, ce que j'aimais faire dans ma salle de classe, c'est de me faire des tableaux. Lundi, tu t'assures d'observer dans les centres X pour être sûr d'avoir des informations à ce niveau-là. Mais c'est à planifier.
Ouais. Non, alors toujours consacrer un bloc.
Et ça. D'être intentionnel.
D'être intentionnel, puis si tu l'as écrit, faut que tu le fasses.
Ah, mais tu sais quoi? La vérité, c'est que c'est écrit. Puis
il y a plus de chances que tu le fasses.
C'est ça. Puis à la limite, tu l'écris sur un post-it. Alors, si tu n'as pas le temps de le faire là, ben tu bouges le post-it à demain. Puis parce qu'avec tout ce qui se passe, il faut être flexible. Puis c'est les enfants qui passent à...
Et notre commanditaire aujourd'hui, c'était 3M. Parce qu'on a fait beaucoup de publicité pour les post-it.
J'aurais dû dire papillon autocollant.
Oui,
papillon
adhésif.
Les post-it.
Mais j'ai dit post-it, alors je suis désolée.
Oh non.
C'est les 3M.
Alors, non, c'est parfait. Alors, je pense que, évidemment, on ne peut jamais, jamais tout couvrir. Mais je pense qu'on a vraiment fait le tour, qui est quand même assez complet, de qu'est-ce que ça veut dire la triangulation. Puis on espère que ça vous a amené quelque chose ici. Alors, sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine!
N'oubliez pas de sortir de votre zone de confort!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Mylène Brassard, Jennifer Davies et Vicky Fauteux. Un remerciement spécial à nos directions de service au Conseil scolaire Viamonde. Le montage a été fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Paddington Bear. Les dessins du logo ont été créés par Francis Fauteux. Et le logo a été créé par Mylène Brassard. À la prochaine!